chez les Blackhawks de Chicago. Mon prochain invité, Yannick Lévesque. Yannick est le président de la Ligue de hockey Midget 3, mais c'est aussi un animateur à RDS, producteur de l'Antichambre également. C'est un gars qui est à la barre de l'émission Hors-jeu 2.0 avec André Roy, et c'est justement sur cette émission-là qu'on va s'arrêter ce soir. Bonsoir Yannick!
Bonsoir Ben, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ben oui, pleine forme, pleine forme.
Merci de prendre du temps pour nous ce soir, c'est très apprécié. J'aimerais ça, si tu me permets, parce que pour toi, c'est évident, pour nos auditeurs, ça l'est un peu moins. J'aimerais ça que tu me fasses un peu la genèse de Hors-jeu 2.0, une émission de télé que tu animes chaque semaine où vous faites le tour de l'Amérique pour aller rencontrer des joueurs de hockey particulièrement, mais d'autres sportifs également. C'est la suite de l'émission, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi mon RDS 101, là, c'est la suite de l'émission qu'animait à l'époque Paul Buisson, qui est malheureusement décédé trop jeune. C'est bien ça?
Ouais, exactement. Paul animait une émission qui s'appelait Hors-jeu à l'époque. Je te dirais, là, fin des années 90, début des années 2000, à peu près. On sait que Paul est décédé tragiquement. Et pendant plusieurs années, une bonne, je te dirais, là, près de 10 ans, il n'y a pas eu de suite à cette émission-là. Là, okay. Dan, je te ramène en 2010 à peu près.
Parfait.
Moi, j'étais à RDS. André Roy vient de prendre sa retraite dans la Ligue nationale. Il a terminé en 2009 avec les Flames à Calgary. Moi, je présente un projet d'émission qui s'appelle L'Entraque, en fait, qui a été en onde une saison en 2010.
Okay.
Qui ressemblait pas mal à ce qu'on fait actuellement, mais j'étais le seul animateur. Il y avait Sylvain Guimond, le Doc Guimond, qui faisait des entrevues dans l'émission également. Et en même temps, André Roy, lui, parle de son côté à RDS, qui voudrait faire revivre un peu l'émission de Paul, parce qu'il était bien copain avec Paul également. Et là, en 2011, sans qu'on soit mis à contribution, RDS prend la décision de nous envoyer sur une tournée de promotion en Afghanistan, André Roy et moi. On n'était pas seuls, il y avait Mario Tremblay, Chantal Maccabée. On était 5-6 d'RDS, okay, pour aller encourager les troupes là-bas, les troupes canadiennes. Ouais, ouais. Et là-bas, il s'est créé une chimie. Puis c'est un peu ce qu'il voulait faire. Il voulait voir si la chimie allait s'opérer entre André et moi. On se connaissait pas du tout. Puis là-bas, sans savoir tout ça, parce que là, l'histoire, ils nous l'ont raconté après. Là-bas, ils nous ont mis comme ensemble et tout ça. Puis ça a vraiment cliqué, puis c'est devenu un bon ami. Et là, RDS, à la fin 2011, nous propose de faire revivre Hors-jeu et de l'appeler Hors-jeu 2.0, mais avec une formule à deux animateurs, c'est pour ça que c'est le 2.0, et également rendre hommage un peu à Paul.
Oui.
Et là, on a fait pendant une saison, Dan, des genres de capsules qui étaient présentées le vendredi soir à l'antichambre. Ça s'appelait les vendredis Hors-jeu. Donc là, on a commencé à tourner, à faire des choses, à développer une synergie. On a essayé plein de choses. Et ensuite est arrivé Hors-jeu 2.0, l'émission, pas la quotidienne, mais l'émission de façon hebdomadaire à chaque semaine. Et là, ben voilà qu'on est 7 ans plus tard, puis l'émission va très bien.
OK. Quand vous partez en tournage, puis là, tu dis à André, OK, c'est beau, il faut prendre l'avion, puis mettons, on s'en va, je donne un exemple, en Arizona, à l'époque où Antoine Vermette jouait, puis là, vous arrivez en Arizona. Est-ce que tu essaies dans tes déplacements, parce qu'il y a quand même des coûts rattachés à ça, on le sait, on est dans les médias, là, est-ce que tu essaies de faire une pierre deux coups, une pierre trois coups des fois, puis essayer d'aller voir trois, quatre, peut-être pas quatre, là, mais un ou deux ou trois Québécois qui jouent dans la Ligue nationale en même temps, ou un voyage est tout le temps rattaché à un seul joueur que vous rencontrez?
Ah non, c'est vraiment, on est la télé des années 2020, là, c'est on fait un voyage, on en fait le plus possible,
okay,
on fait de la saucisse.
Ouais, c'est ça.
Je vais te donner un exemple, la semaine dernière, on était à Winnipeg, je suis parti dimanche, on recule un peu plus d'une semaine, là.
Ouais.
Parti le dimanche, on arrive à Winnipeg tard, le lendemain, on commence à tourner, lundi, mardi, mercredi, on a tourné 4 émissions.
Oh.
Jeudi, on est revenu à Montréal.
Okay.
En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé tourner avec Mathieu Perrault et Gabriel Bourque, deux joueurs des Jets. Le lendemain, on est allé tourner avec Pascal Vincent et Éric Dubois, qui sont les entraîneurs et entraîneurs adjoints du Moose du Manitoba, le club-école des Jets.
Oui.
Et le mercredi, on est allé visiter l'usine de True Hockey avec un Québécois, Mario Therrien, qui est représentant pour cette compagnie auprès des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Puis l'usine est basée à Winnipeg. Puis on a terminé ça avec un petit tournage le fun avec le personnage André Stéphane au Musée des sports du Manitoba, un peu le pendant sportif là, du Panthéon des sports du Québec. Donc, on revient de là avec 3-4 émissions avec beaucoup de contenu.
Okay.
C'est un voyage très court, mais tu sais, c'est des journées de 13-14 heures. Là. C'est, on commence très tôt le matin, puis disons qu'on n'est pas assis au 5 à 7 avec un petit verre de vin.
Non, non, je comprends.
Ça finit tard. Parce qu'il faut, toujours, Dan, essayer d'en faire le plus possible, rentabiliser le déplacement, parce que ce genre d'émission coûte très cher à produire. On est quatre, on est une équipe, on voyage. Fait que c'est un peu comme ça. Quand je vais, par contre, dans des villes plus rapprochées, souvent, on va changer de ville. Exemple, je peux aller à Philadelphie. Le lendemain, je vais tourner à New York. Le lendemain, je suis au New Jersey. Tu sais, ça va arriver qu'on va faire des choses comme ça. Mais quand, comme là, Winnipeg, c'est assez isolé. Mais je me rappelle, tu sais, parce qu'on en parle beaucoup de football, c'est ainsi. En 2016, j'étais allé faire quelque chose avec Laurent Duvernay-Tardif à Kansas City. On avait passé 2 jours avec lui. Ensuite, on a pris le véhicule. On est monté au Minnesota, Saint-Paul, Minneapolis. On est allé tourner là-bas des émissions à l'époque avec Jason Pominville, entre autres, Marco Scandella. On a pris l'avion pour on est revenu.
Okay.
Et souvent, on essaie de rentabiliser les voyages comme ça. On essaie de se promener pour montrer des villes où ce qu'on va pas nécessairement en vacances. On essaie de montrer des endroits, à faire découvrir des endroits aux gens également.
Oui, puis pas juste la maison du joueur. Vous visitez aussi les amphithéâtres puis les stades. Ça, les gens aiment ça.
Donc, on est plus tourné vers ça parce que Paul le faisait, lui, à l'époque, dans son émission, c'était toujours chez le joueur, à sa résidence. Nous, je te dirais, dans 95% des cas, on va pas chez le joueur. Parce qu'on voulait se démarquer, on voulait être différent.
Okay.
Donc, on a concentré ça un peu plus sur on va ailleurs, dans un resto, un endroit, ou l'aréna, les stades. Parce que ça, les stades, c'est arrivé dans saison 3, en fait. À un moment donné, je dis à André, écoute, j'ai un de mes bons amis qui est un maniaque de sport. Quand on est revenu de faire un tournage, je pense que c'est au stade des Patriots, le Gillette Stadium, la première fois qu'on est allé. Lui, c'est un maniaque de foot de la NFL, puis il me dit, « Hey, Yann, t'es écœurant, tu nous as montré les vestiaires, tu sais, on voit jamais ça, c'était le fun, tu m'as donné envie d'y aller, je vais me payer un tour. » Puis là, j'ai comme allumé, j'ai fait, « C'est vrai, on voit jamais ça. On voit le gars dans le vestiaire en entrevue, puis on voit le match sur le terrain ou sur la glace. » J'ai dit, pourquoi qu'on ne montrait pas un petit peu le behind the scenes qu'il y a en coulisses, des choses qu'on ne voit jamais? On a commencé à faire ça. La réaction a été immédiate auprès du service à la clientèle à RDS. On a eu énormément de gens qui nous ont écrit pour nous dire qu'ils trouvaient ça super intéressant. Donc, on a développé ça. On l'a amené au hockey, au football, au baseball. Puis même, tu vois, dans l'émission de ce soir, on a même été au basket. On a fait de quoi avec Chris Boucher des Raptors. Puis on est allé au centre d'entraînement. Là, on n'a pas fait de visite. Parce que c'était compliqué un peu avec les Raptors, parce que là, des fois, il faut dealer avec des gens, des relations avec les médias qui sont pas toujours très sympathiques et très ouverts à nos idées de folie. Mais dans la majorité des cas, ça va bien.
Mais sérieux, quand vous appelez les représentants des communications, faut que ce soit toi qui appelle, faut pas que ce soit André, parce que lui, il pourra pas le prendre au sérieux.
Ouais, non, ça, c'est sûr. André appelle pas personne.
Non.
André, je le mets dans la valise. Je le détache rendu dans la ville.
OK, parfait. Hein? Yannick, est-ce que sur une perspective, je dirais, de court-moyen terme, tu as peur de manquer de Québécois dans le sport professionnel pour tes émissions? J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez peut-être avoir fait le tour, non?
Bien, c'est certain, parce qu'il y en a de moins en moins, malheureusement. C'est un constat que l'on observe depuis quelques années. Écoute, quand André jouait à sa dernière année, il y avait plus d'une cinquantaine de joueurs québécois dans la Ligue. Je pense que c'est l'an passé, j'ai fait un genre de recensement qu'on était à 33-34. Il y en a de moins en moins.
Ouais.
Par contre, c'est une des raisons qui explique aussi pourquoi on s'est tourné vers les entraîneurs adjoints, les dirigeants. Il y en a des Québécois qui travaillent dans le hockey qu'on ne connaît pas, qui sont souvent dans l'ombre. Tu sais, Pascal Vincent, là, c'est un fichu de bon entraîneur. C'est un gars là, qui roule sa bosse. Il a dirigé dans la Ligue junior majeure du Québec, junior de Montréal, Cap-Breton. Il a été entraîneur adjoint avec les Jets pendant 5 ans. Là, il a décidé de revenir dans la Ligue américaine comme entraîneur-chef. Tu sais, ce gars-là, probablement, qui va diriger dans la Ligue nationale sous peu. Mais peu de gens le connaissent parce que ça fait 9 ans qu'il est au Manitoba. On en entend moins parler. Donc, on fait découvrir un peu ces gens-là. Éric Dubois, son adjoint, ben, il n'y a pas grand monde qui sont au courant. C'est le papa de Pierre-Luc Dubois,
exact.
Les Blue Jackets de Columbus.
Ouais.
Éric est entraîneur adjoint, il a roulé sa voie, il a joué dans l'équipe professionnelle. Ben exact, tu sais, dans le junior majeur. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'élargir un peu nos cadres. Il y a toujours quelques anciens qu'on fait ici et là, de temps en temps, avec qui on a l'occasion de renouer. C'est toujours le fun. Je pense pas que je me manquais de matériel.
Okay.
C'est certain qu'il faut être créatif dans ce milieu-là. Il faut arriver avec des idées, des nouveaux concepts. je pense qu'on réussit à bien le faire à hors-jeu au fil des ans. Si tu regardes les émissions de la première saison et les émissions cette année, là, de l'ancêtre, là, si tu veux, il y a une énorme différence. On a amélioré beaucoup de choses, puis on essaie de se renouveler. Là-dessus, on a fait des reportages de courses automobiles il y a quelques années avec Patrick Carpentier au New Hampshire. On est allé visiter Daytona l'année passée, en mars du Daytona 500. Ça, c'est des choses différentes qui sont le fun à voir et qu'on n'a pas l'occasion de parler souvent au Québec.
Absolument. OK. Y a-tu une situation où tu es parti en avion, tu es allé visiter un joueur, puis avant de partir, tu ne le connaissais pas vraiment, puis tu es arrivé là-bas, tu as dit, voyons, il est donc ben smart, lui, c'était vraiment un cool guy avec qui jouera au golf à tous les jours l'été. Puis à l'inverse, un gars que tu es allé voir, puis tu t'es dit, hey, boy, lui, finalement, je sais pas si tu vas oser me le dire en ondes, mais mettons que ça a mal tourné, puis ça n'étendait pas, là.
Ben, écoute, dans toute l'histoire, écoute, ça fait 13 ans que je fais ce métier-là, dans, honnêtement, là, des gars désagréables, pas gentils, j'en ai pas rencontré beaucoup dans ma carrière. C'est peut-être arrivé une ou deux fois.
Okay.
Évidemment, je te nommerai pas le nom, là, je vais garder ça pour moi, là, c'est certain. Mais, tu sais, c'est arrivé une ou deux fois, c'est pas arrivé souvent, mais souvent, ça vient avec une historique, dans le sens que, on le sait pas, le gars, il a peut-être eu des problèmes familiaux, il a peut-être eu un divorce, tu sais, on connaît pas l'histoire, puis c'est souvent après qu'on l'apprend. Mais je te dirais que la majorité des gars sont tout le temps très sympathiques. Là, c'est drôle, je te nomme un gars que je connaissais pas, que j'ai fait aïe aïe. T'en as parlé tantôt. C'est pas parce que t'en as parlé, c'est vraiment une histoire véridique. Antoine Vermette, moi, je le connais pas. C'est-à-dire que je le connais comme joueur de hockey, comme athlète, mais je l'ai jamais rencontré dans ma vie. À un moment donné, il vient à l'antichambre comme invité, mais ça donne que ce soir-là, je suis pas là. Parce que je suis producteur aussi de l'antichambre, puis j'anime aussi à l'antichambre.
Ouais.
Mais là, ce soir-là, je suis pas là. Ça reste là. Antoine remporte la Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago. L'été qui suit, lorsque sa journée de Coupe Stanley,
oui.
J'entre en contact avec lui, j'y explique qu'est-ce qu'on veut faire pour hors-jeu et tout ça. Il me dit, ben oui, ça va me faire plaisir, on est allé passer la journée avec. Écoute, ça faisait pas 10 minutes que j'étais avec lui, que c'est exactement la réaction que j'ai eue, que j'ai dit à André, mais semble que ça deviendrait un bon chum, mais semble que je passerais une journée au golf avec. Il est tellement gentil,
oui.
Une bonne personne.
Oui.
Et là, on a fait ça cette journée-là, mais 2 ans plus tard, il était à Anaheim. Moi, un de mes bons amis, je suis là, c'est François Beauchemin, qui a pris sa retraite l'an passé. Puis là, je m'en vais faire de quoi avec François, je m'en vais chez François. Puis là, Antoine, on lui demande aussi, il accepte. Mais là, finalement, on n'est pas capable de tourner parce que l'entraînement est annulé. Bref, l'entrevue est tombée à l'eau, on manque de temps. Antoine Vermette vient me voir avant le match, je le croise dans les corridors, il dit, écoute, Yannick, je veux le faire avec vous autres absolument. Si t'es pas pressé, viens me voir après le match, on va faire quelque chose. Moi, je m'attends à ce qu'on fasse une petite entrevue dans le vestiaire, bien tranquille, après le match. Ben non! Il dit, hey, on va aller sur la glace, ils ont gardé les lumières ouvertes au Wanda Center. Beauch, François va venir avec nous autres, on va faire un tournage. Finalement, on a fait un cours de mise en jeu 101 sur la glace à minuit le soir au Wanda Center, tout seul, avec Antoine Vermette, François Beauchemin.
Wow.
Ça te donne l'idée. Tu vois le genre un peu. Mais des gars comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Souvent, c'est pas les joueurs qui sont difficiles. C'est les gars de médias, les gars d'équipe qui protègent ces joueurs-là.
Okay.
Mais dans l'ensemble, écoute, à 90-95% du temps, ça se déroule toujours bien. Mais ça demande évidemment beaucoup de préparation. Qu'il faut tout organiser ça avant de partir.
Oui, je comprends. Pas surpris de ton histoire sur Antoine Vermette. C'est en effet un chic type. Je l'ai souvent mentionné en ondes. Ah, là, le temps file. Il me reste juste une minute ou deux. Mais est-ce que tu as un endroit où... T'es tombé en bas de ta chaise. Mettons, t'as visité un stade ou t'as visité un endroit un peu plus secret, puis là, tu t'es dit, eh bien, voyons donc, je pensais jamais qu'on allait présenter ça aux téléspectateurs, mettons.
Écoute, le stade, deux choses, je fais ça vite. Le stade le plus impressionnant à ce jour que j'ai vu de ma carrière, je les ai pas tous vus dans la NFL, mais disons que j'en ai vu plus de la moitié, là. C'est certain que c'est le Bank America Stadium au Minnesota, le domicile des Vikings du Minnesota, le US Bank Stadium.
Okay.
Il est incroyable. Je te dis, Dan, je suis rentré là, puis même André, on était complètement abasourdis. C'est le plus beau, le plus gros, le plus spectaculaire que j'ai vu.
Okay.
Un endroit que jamais j'aurais pensé qu'on aurait pu montrer ça à la télé, puis encore là que la mâchoire m'a décroché. Il y a 3-4 ans, on fait un tournage avec Vincent Le Cavalier, qui est fraîchement retraité, à Tampa, et il nous apporte dans son restaurant préféré que tu connais peut-être de réputation, le Burns Steakhouse.
Le Burns, oui, je suis allé au mois de novembre.
Bon, bon ben écoute, c'est, premièrement, c'est très bon.
La cave à vin,
c'est abordable. Là, exact. Là, on nous amène dans la cave à vin, et là, on m'explique qu'il y a 1 million de bouteilles. C'est la deuxième plus grosse cave à vin aux États-Unis. Mais là, ils nous donnent accès à tout. Puis là, on va de l'autre côté de la rue aussi,
oui,
visiter
l'entrepôt.
Écoute,
ben ouais.
Ah, c'est spectaculaire. Et on a bu du vin, mon ami. J'ai bu un vin de 1937 ce soir-là. Là, j'ai pris une gorgée. Je capotais. Mais la bouteille valait 55 000 $ US. Donc, pas besoin de te dire que j'ai pris une petite gorgée seulement.
Ouais, c'est ça, exact. OK, c'est fascinant de t'entendre, Krim. On pourrait quasiment faire une chronique à chaque semaine, mais rappelle-moi le sujet de l'émission de ce soir. Est-ce que le mardi, c'est une nouvelle émission ou...
Oui, bien, en fait, on a une émission par semaine. Là, c'est une nouvelle émission par semaine, mais compte tenu qu'on est un peu tributaire de la grille horaire des présentations des émissions en direct,
ouais,
on se promène un peu. Je te dirais que 80% du temps, c'est le mercredi à 19h.
Oui, c'est ça, hein? OK.
Mais c'est ça. Mais là, quand le Canadien joue, le Rocket ou qu'il y a d'autres choses, là, on est déplacé. Comme demain, RDS présente un match du Rocket contre le Crunch de Syracuse. Donc là, on est déplacé à ce soir à 19h avant le match de basket. On se promène, mais c'est toujours la première diffusion. La diffusion originale est toujours le mardi, le mercredi à 19h. Ce soir, dans l'émission, ben, on est du côté de Toronto et de Buffalo. Tu allais faire une petite visite au Temple de la renommée du hockey,
okay,
à Toronto quelques semaines après l'intronisation de Carbo. En fait, pour vous montrer une exposition consacrée à Gordie Howe et Wayne Gretzky, l'exposition s'appelle 999. C'est assez intéressant. Puis on est allé rencontrer Chris Boucher des Raptors de Toronto, avec qui il nous a donné une entrevue. Vous allez voir le clash de grandeur. Là. J'ai de l'aide d'un petit gros à côté, c'est pas compliqué, un nain, il mesure quasiment 7 pieds, ça n'a pas de bon sens, mais tellement sympathique et tellement impliqué dans la communauté québécoise, Chris Boucher. D'ailleurs, après l'entrevue, c'est pour ça qu'on n'a pas pu visiter les installations, c'est qu'il avait pris une entente avec une commission scolaire au Québec, la région de Montréal, qui s'en venait à Toronto pour visiter les installations avec lui, puis passer du temps pour leur montrer le basket et tout ça avec deux autobus de petits Québécois qui s'en venaient là cette journée-là. C'était vraiment, vraiment le fun. Dans les prochaines semaines, écoute, on a plein de choses qui s'en viennent. Entre autres, qu'on a tourné à Winnipeg. Ça va être présenté en février.
Okay.
Ça va être bien, bien le fun. Manquez pas ça.
Super. Un gros merci de nous avoir parlé. À bientôt.
Hey, ça me fait plaisir, Dan. N'importe quand tu m'appelles, ça va toujours me faire plaisir. Quand je vais être dans le coin de Québec, je vais aller voir en studio.
Parfait. T'es le bienvenu. Bonne soirée à toi.
Salut Dan, bye bye.
Salut bien. Yannick Lévesque, qui est animateur de Hors-jeu 2.0. En allant à la pause, on va écouter le thème de l'émission Hors-jeu qu'animait Paul Buisson, malheureusement décédé beaucoup trop tôt, en 2005, à l'âge de 41 ans seulement.